Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons de musulman au singulier. Qu'est-ce un musulman? Le vocable musulman, l'acception derrière ce mot, à quoi renvoie-t-il? Est-ce une assignation? Toutes ces questions, Marie-Claire Willems y a répondu dans un ouvrage intitulé justement « Musulman, une assignation, point d'interrogation » paru aux éditions du Détour. Marie-Claire Willems, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci de m'avoir invité.
Je vous en prie, je suis ravi de vous recevoir. Merci pour l'amitié que vous nous faites de venir. Vous êtes sociologue,
oui.
Docteur en sociologie. Vous êtes attaché au laboratoire Sophia Paul. Sophia Paul, c'est un laboratoire à la fois de sociologie, de philosophie, d'anthropologie politique de l'université Paris-Nanterre, Paris-Ouest Nanterre. Et donc, pourquoi étiez-vous intéressé de cette question d'être musulman de nos jours, en France et de par le monde? Donc, vous interrogez le mot et vous donnez des pistes de réflexion et des réponses. Mais d'abord, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt?
Alors, on peut dire que c'est un sujet que je réfléchis de très longue date. Avant même l'engagement universitaire, puisque il y a déjà 10 ans, mon mémoire était déjà sur ce thème, un peu moins approfondi en termes d'études du terme et de socio-sémantique historique. Mais d'un point de vue citoyen, on va dire, avant ça, principalement, je pourrais dire que ce questionnement est né beaucoup en 2004, au moment de ce qu'on appelle pas les affaires du voile, parce que c'était bien avant, mais au moment de cette fameuse loi où il y a eu beaucoup de mots médiatiques, où on entendait musulmans à toutes les sauces. Et à un moment donné, c'était ben, qu'est-ce que ça veut dire ce mot musulman? Il est prononcé par tout le monde. De qui on parle vraiment? Et donc voilà, est venue l'idée avec aussi, à ce moment-là, je commençais des cours d'arabe. Et donc j'apprenais un peu à découvrir Mousslim et toutes les subtilités de la langue arabe et des mots qui sont utilisés. Et donc voilà, je voyais quelque part un vide, une zone trouble, floue, où je faisais plus le lien entre l'acception, le sens que je voyais je constatais de musulmans dans les médias et moi qui étais en train de mon côté de découvrir la langue arabe. Et donc voilà, c'est là qu'est née la première question quant à l'usage de ce terme, un terme qui à mon sens Enfin, la question, c'était qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut plus rien dire? Est-ce qu'il veut dire plein de choses? Et puis, il y avait cette question aussi de qu'est-ce qu'en disent les premiers concernés aussi de leur propre identité? Et à ce moment-là, donc, je rencontre mon directeur de recherche qui est spécialiste de la socio-sémantique historique, qui a fait pas mal de recherches sur le mot diaspora, le mot communauté. Et là, il vient de publier, Stéphane Dufoy, un livre sur le décolonial. Et donc, une rencontre, il m'invite à poursuivre sur l'histoire du mot musulman. Et comme c'est une thèse de sociologie, à aussi aller sur le terrain, voir les premiers concernés, voir eux, d'un point de vue sociologique, qu'est-ce qu'ils en pensent, quelle signification ils mettent derrière ce terme, quel sens ils mettent derrière ce terme.
Je me rappelle d'une histoire d'un ancien ministre de l'Intérieur qui a dit, vous savez, moi j'ai nommé le premier préfet musulman. Mmh. Et on lui avait rétorqué, mais monsieur le ministre, ce préfet n'est pas musulman. Il a dit, ah bon, mais ça se voit. Je ne sais pas si l'anecdote est réelle ou pas, mais elle donne une idée qu'on a ethnicisé en confessionnalisant. Et donc, première question, c'est que vous donnez quelques catégories comme ça. Vous parlez même d'une sorte d'auto-catégorisation et de d'hétéro-catégorisation, mmh. celui qui se nomme eux-mêmes et celui ce qu'on nomme. Et là, mais nous passerons en revue tout cela tout au long de l'émission. D'abord, vous pensez, et notamment en France et dans la langue française, que être musulman est déjà une sorte d'ethno-ethnico-religion.
Exactement. Quand je fais des recherches, donc pour essayer d'aller voir les définitions dans les encyclopédies, ce que j'explique dans le livre, ou d'étudier les réceptions des phénomènes historiques, des passages historiques, on voit bien que, en fait, la question que je me suis toujours posée, que j'ai gardée comme critère, c'est est-ce que lorsqu'on parle des musulmans, on parle d'une religion ? C'est un critère. Ça veut. Et donc, on voit bien que par rapport à l'histoire du mot, j'en arrive à la fin à me demander est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire, finalement, on parle d'une religion ou on ethnicise, c'est-à-dire qu'en fait, on parle d'une catégorie ethnicisée qui est assimilée, assignée ou pas, à une religion. Mais et on voit bien dans cette histoire du « ça se voit », qu'en fait, on retraduit par des faits, par une apparence, par une appartenance à un territoire, une religion. Et pas que, parce qu'on a aussi une altérité. C'est-à-dire, c'est une religion qui n'est pas la nôtre, qui est altérisée. Donc, on positionne toujours l'autre dans une position de différence. Et souvent, dans l'histoire, de différence qui est dévalorisée.
Là, pour cette ethnicisation, en réalité, allez, pour faire simple, il s'agit plutôt des Maghrébins et des Subsahariens, oui. et même des Africains de l'Ouest.
Alors ça, c'est un peu plus complexe encore.
C'est encore plus complexe. Vous nous dites la complexité des choses. Alors si on devait, à supposer qu'il faille mettre en avant, à supposer par extraordinaire, un phénotype, ou un génotype du musulman, eu égard au nombre et à la démographie, il faudrait en prendre un plutôt en Insulinde ou en Indonésie, mais pas en Afrique du Nord. Mmh. Et à contrario, ce fameux préfet dit musulman alors qu'il ne l'était pas, a le même phénotype que saint Augustin, s'il devait être parmi nous.
Oui, globalement, on peut dire, des fois, quand on retraduit des discours, en fait, on peut se demander aujourd'hui de qui on parle. Ben, globalement, on parle surtout des Arabes en France quand on parle des musulmans. Et ce qui m'a intéressée, c'est justement d'aller questionner chez les premiers concernés, puisque vous parlez de Saint-Augustin, je vais y revenir, je fais un détour. Et je suis allée enquêter chez les ex-musulmans musulmanes, donc deux différents ex, ceux qui se convertissent à l'évangélisme. Bon, ils ne se reconnaissent pas forcément en tant qu'évangélique, puisqu'ils vont dire « non, moi je suis plutôt un chrétien ». Et justement, avec pas mal de personnes qui sont d'origine algérienne kabyle, qui vont se rattacher à Saint-Augustin, en disant « finalement, je ne fais que faire un retour aux origines, en revenant vers le christianisme, et donc je ne suis plus musulman ». Mais, par exemple, chez les ex-musulmans qui sont maintenant évangéliques, il y avait toutes... Alors, ils s'appellent la Casbah, il y a tout le décor, on mange des... Enfin, ils vont mettre en avant leur culture arabe en disant « c'est une culture, mais je ne suis pas de culture musulmane, je ne suis pas musulman ». Donc, eux, ils vont vraiment établir cette différence entre eux. Leur origine, leur culture et leur religion.
Vous parlez même d'un mariage qui a suivi, si j'ose dire, les coutumes d'un mariage traditionnel berbéro-arabe ou arabo-berbère, alors qu'ils ne sont pas musulmans.
Pas du tout. Ils sont, d'ailleurs, cet homme que j'ai interrogé et que je remercie de m'avoir consacré du temps, et il est même pasteur. Donc il est plus qu'engagé dans sa foi. Et à ce moment-là, il met tellement en scène les rites de mariage, là je crois que c'est marocain, berbère marocain, et que sa propre famille lui dit « mais t'es toujours chrétien, vous êtes toujours chrétien ou pas ?» C'est-à-dire vraiment, il y a En fait, quand vous parlez d'auto et d'hétérocatégorisation, la question c'est qu'effectivement, on interroge l'hétérocatégorisation qui va réduire ou assimiler l'identité musulmane à une ethnie dont on ne sait pas trop ce que c'est, parce que c'est un peu complexe. Et aussi, on a toute l'autocatégorisation où parfois c'est aussi compliqué pour les personnes de faire cette différence entre leur appartenance religieuse, culturelle, nationale.
Oui, et ce qui est curieux, vous le dites si bien dans l'ouvrage, c'est qu'on a ces catégories d'origine musulmane, de culture musulmane, de condition musulmane et même de sensibilité musulmane. Qu'est-ce que ça veut dire? D'origine musulmane, et vous dites, vous créez, peut-être pas que vous seul, le néologisme, mais la musulmanie n'existe pas. De culture musulmane, ça n'a aucun sens, parce que laquelle? Est-ce la pakistanaise, celle de Malaisie, celle du Yémen, celle du Sénégal, celle du Suriname, où il y a beaucoup de musulmans? Donc, il y a des confusions. Et qu'est-ce que c'est qu'une condition musulmane? Pourtant, le champ sémantique usuel et usité parle de ces catégories. Vous évoquez ce jeune Tunisien, je crois qu'il s'appelle Tariq, si vous avez gardé les prénoms, et il dit, bon, moi je suis athée, mais de culture, d'origine musulmane.
L'origine musulmane, il me semble quand même que c'est un... Voilà. Donc je commence par m'interroger sur le mot musulman, me questionner sur le mot musulman, et donc je vais aller puiser, rechercher tous les mots connexes. Donc on a origine, culture, je suis allée voir apparence, sensibilité, on peut trouver... les êtres humains sont très créatifs, donc on trouve parfois... différentes manières, en fait, où musulman devient le qualificatif. Culture musulmane, origine musulmane, sensibilité musulmane, qui s'efface un petit peu en ce moment, qui reste un peu, mais qui était surtout présent, je crois, dans les années 2010.
Vous avez même trouvé dans le discours de François Mitterrand qu'il avait parlé de conditions musulmanes,
oui,
et la fois d'après l'a retiré.
Oui, très étonnée de le trouver là. Alors là, parce que j'ai essayé d'aller voir, de m'intéresser au mot, à l'expression communauté musulmane. À quel moment on s'adresse à une communauté, c'est-à-dire qu'on fait, un lien entre des individus. Et donc, j'ai été voir un peu les discours présidentiels. Et donc j'ai été un peu lire ceux de Giscard d'Estaing et puis ceux de Mitterrand. Bon, Giscard d'Estaing, on ne trouve pas trop le vocable de communauté musulmane, et on le trouve pas mal dans les discours de François Mitterrand. Et puis je suis allée voir, donc François Mitterrand, c'est le premier qui s'adresse donc à la communauté musulmane et qui leur souhaite donc un bon ramadan, enfin une belle Aïd. Donc je suis allée étudier comme ça avec les années les différents vocables qu'il utilise, lui et son équipe de communication sûrement. Et on retrouve, je souhaite, donc, à tous ceux de conditions musulmanes. Après, on a ceux qui professent la foi de Mahomet. Et puis, à un moment donné, on va avoir la communauté musulmane, ceux qui sont de religion. Enfin, on sent qu'au fur et à mesure des années, c'est pas clair. À qui s'adresse-t-il?
C'est pas très clair. Vous dites que cela remonte d'ailleurs du temps de la colonisation, où pour... le référent exclusivement religieux et culturel, on utilisait Mahométan, et pour avoir le pendant, voire l'antagoniste d'Européens, c'était le musulman. Et on était dans deux statuts différents, y compris dans deux ordres juridiques même différents. Et ce qui est curieux, c'est lorsque le musulman, avec toute la charge qu'il y a derrière, devait se convertir au catholicisme, il ne sortait pas de ce statut, et si d'aventure un non-musulman, un catholique, devait se convertir à l'islam, il garderait ses privilèges d'Européen.
Bien sûr. Donc on voit bien ici que le droit fixe une identité qui va au-delà des identités réelles dans le quotidien. Et ce qui est intéressant, quand on étudie comme ça les identités, et c'est ce que j'ai cherché toujours à faire, je ne sais pas si ça se ressent, mais c'est de me situer à la frontière des identités. Et donc, il y a pendant la période coloniale, il y a beaucoup d'avis juridiques, des jurisprudences, des questions qui se posent dans le cadre des conversions, dans le cadre des mariages mixtes, des héritages. Donc comment, à quel statut appartiennent les enfants issus de mariages mixtes ? Est-ce que c'est le droit musulman ou le droit civil ? Enfin, il y avait vraiment toute une réflexion qui était faite parce que la colonisation principalement algérienne, elle va figer, et d'ailleurs c'est la première fois de l'histoire où ça se passe comme ça, elle va figer une identité dans le droit, c'est-à-dire qu'elle va utiliser un vocable religieux tout en disant qu'il ne l'est pas, ce qui est quand même exceptionnel, pour dire le droit et pour créer des statuts. Et donc des personnes qui vont répondre à ces statuts, peu importe leur confession. C'est pour ça que j'ai tout un chapitre où on trouve des musulmans chrétiens. C'est quand même...
Des
musulmans catholiques.
En dehors de l'appellation pour Louis Massignon du pape qui disait de lui qu'il était le catholique musulman, mais ça c'est un cas particulier, il y a curieusement cette idée de musulman catholique parce que le premier mot musulman renvoie plutôt à une sorte d'ethnie, et catholique, c'est plutôt la confession.
D'ethnie et de condition.
Et de condition.
De condition politique, de condition sociale.
On y reviendra, et puis on verra à la fin comment, pour désethniciser tout cela, il faut que le mot recouvre son acception confessionnelle et spirituelle. Pour vous, c'est une sortie de toute la confusion qui est derrière. Alors, chère Marie-Claire Willems, il y a cette histoire du temps où vous vous occupiez dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance d'une mère et de son jeune enfant, où la préposée, la responsable, dit à la mère, vous savez... votre fils, s'il veut faire sa prière, il pourra la faire uniquement dans sa chambre, parce qu'il y avait un internat, mais le fait de porter la djellaba n'est pas autorisé. En revanche, on pourra inscrire qu'il ne mangera pas de la viande porcine. Et la maman, étonnée, lui dit, mais ça ne nous concerne pas tout cela.
Exactement.
Vous étiez présente, mais elle ne s'est pas adressée à vous sur ces paramètres-là, si je puis dire.
Exactement. Donc, par rapport à mon parcours professionnel, moi je suis une ancienne éducatrice spécialisée. Donc j'ai travaillé auprès des mineurs étrangers isolés il y a 20 ans maintenant, et à l'aide sociale à l'enfance, et puis ensuite j'ai poursuivi mes études de sociologie. Et donc je prends pour débuter ce livre un exemple où j'accompagne cette mère et cet enfant pour un placement. Et je suis très étonnée parce qu'à aucun moment dans mon rapport social, je précise quoi que ce soit, ni culturel, ni religieux. Et il se trouve en plus que cette famille-là n'était pas du tout... c'était elle-même, cette maman, une enfant de ce qu'on appelait anciennement la DAS, dans le vocabulaire courant. Donc il n'y avait pas d'ancrage... Même ce qui faisait la problématique de cette famille, il n'y avait aucun ancrage. C'était une femme qui était très seule et il n'y avait pas de, parlait pas la langue. Donc elle n'avait que le nom, elle n'avait hérité que du nom ou du prénom. C'est là où je parle des cas frontières, des cas limites, où justement, c'est un peu comme un miroir grossissant où on voit les assignations, les catégorisations, les jeux de catégorisation. Et donc cette directrice, qui en plus la djellaba. Enfin, ça rappelle les récents
la baya,
etc. Exactement. Et donc là, je me dis, mais ah, voilà. Donc on a une famille qui arrive, qui porte un prénom d'origine maghrébine et qui est de fait assignée à la posture du musulman, avec toutes les représentations que ça charrie derrière. C'est-à-dire directement, on leur signifie attention. Il y a l'espace public, il y a l'espace privé, et la djellaba, non, pas dans les couloirs. Ce qui est exceptionnel quand même, d'assigner la djellaba à un signe religieux.
Donc, et c'était bien avant les histoires de ces accoutrements.
Avant, bien sûr. Et je le raconte pas, mais je l'ai gardé. Elle avait même fait, cette directrice, alors je ne sais pas d'où elle arrivait, cette directrice de foyer, elle avait même fait une note à l'entrée pour bien expliquer les règles, et puis... qu'elle a imposé dans sa structure.
Et elle vous dit, quand vous l'interrogiez, vous étiez un peu circonspecte devant tout cela. Elle dit, mais chez eux, c'est le chez eux qui est problématique.
C'est le chez eux. Eh bien, on est un peu là-dedans en ce moment, non?
Il y a les eux et les nous qui ne sont pas chez eux, chez nous.
Qu'ils retournent chez eux. Donc on voit bien que derrière cette identité-là, il y a de l'altérité, il y a de l'étranger, il y a du danger. Et la question, c'est où est la confession?
Oui, alors qu'à l'origine, le mot, et vous l'interrogez à travers l'histoire, il passe par sarrasin, mahométan, on verra tout à l'heure que même islamisme, islam, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Nous sommes sur France Culture, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons du musulman comme vocable, comme même une assignation, avec la sociologue Marie-Claire Willems, qui est attachée au laboratoire Sophia Paul de l'Université Paris-Nanterre. Et Sophia Paul, c'est sociologie, philosophie, anthropologie politique. Pour cette deuxième partie, chère Marie-Claire Williams, il y a aussi le cas d'une certaine Raouda qui, elle, a bien affiché son rejet de la tradition religieuse islamique, alors que son fils, lui, y revient, et donc il lui demande presque comme une requête de ne pas manger du porc devant ses camarades et ses amis, et elle affiche cela comme une transgression assumée. Donc ça pose des problèmes d'ordre affectif, psychologique, etc., dans ces familles, notamment des familles monoparentales.
Là c'était vraiment intéressant, cette femme, Raouda, parce que elle était mère célibataire. Donc dans son parcours de vie, elle raconte que jeune, très jeune, elle a pratiqué l'islam. Et quand elle l'explique beaucoup en lien avec la tradition familiale, ce qu'elle a vu enfant, comment elle a vu pratiquer sa famille, avec beaucoup de problématiques familiales. Et finalement, elle décide donc de sortir de ça. Elle se convertit à l'évangélisme, donc elle a quand même un parcours avant de recherche. Donc bon, j'ai cité que quelques passages, mais je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, donc... On a pu discuter de comment elle décide finalement de garder une foi, mais de quitter l'évangélisme puisqu'elle n'en est pas satisfaite. Et au moment où je la rencontre, moi, elle s'inscrit plus trop nulle part. Elle a élevé son fils seul, mais son fils, donc on parle, justement, j'ai essayé d'interroger la question de la transmission. Qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie à? Mais son fils, lui, s'identifie, c'est-à-dire qu'elle explique que son fils, lui, c'est important pour lui de dire qu'il est musulman. Et ça passe principalement par le fait de pas manger de porc. Bon, en gros, on limite, d'ailleurs j'ai tout un chapitre sur la question porc ou sans porc, toute l'importance que prend la consommation du porc pour marquer une identité, autant d'un point de vue de l'identité de soi que de l'identité de la manière dont on identifie autrui, en France principalement. Et donc, elle raconte une histoire où elle avait un barbecue. Son fils, il lui avait fait tout un tas de « je t'en supplie, maman, mange pas de saucisses et tout ». Et donc, elle arrive, elle a écrit « deux saucisses pour moi, s'il vous plaît ».
De chipolata.
De chipolata, voilà. Et elle explique « moi, je veux, allez, je suis pas musulmane, je suis arabe et voilà, et c'est comme ça, il faut que mon fils, il accepte ». Donc, bon. On imagine avec l'adolescence, toutes les problématiques, la honte peut-être qu'a eu le fils avec tous ses copains, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était un barbecue dans le cadre le fils faisait du basket, donc il y avait tous les copains. Et donc là, on voit bien, je me suis dit, mais déjà d'une, qu'est-ce qui fait que ce fils s'identifie ? Puisqu'il n'a pas eu de transmission. Il s'identifie par quoi ? Donc, j'ai pas pu rencontrer son fils, ça aurait été hyper intéressant. Mais on voit bien qu'il s'identifie aussi par une image qu'on lui rapporte de ce qu'il est, par aussi une fierté. Puis après, il y a toute l'histoire familiale aussi, et un peu psychanalytique, on pourrait analyser, de l'identité. C'est intéressant parce que la question de l'origine musulmane, c'est souvent, c'est une hérédité. C'est une transmission. Or, on voit là que ça passe pas par ça.
Oui.
Mais ça passe par quoi ?
Et sur un autre plan, si je reviens à ce jeune Tariq, totalement athée et ayant assumé son athéisme, dit « Oui, tout va bien sauf avec le porc, ça ne passe pas, c'est assimilé avec cochon, saleté, et je ne pourrai pas ». Alors que rationnellement, rien ne lui interdit désormais de manger des plats carnés, a fortiori de la viande porcine.
Exactement. Ça, c'était vraiment intéressant, ce rapport-là au cochon, par exemple. Cet homme-là, donc vraiment athée revendiqué, qui continue quand même de se dire musulman athée, parce que c'est important pour lui, de rester musulman. Il a aucune exigence pour ses enfants à ce niveau-là. On pourrait dire, bon, il est musulman athée, il dit à ses enfants, bon, chez nous, le cochon, c'est interdit, mais la religion, on s'en moque, enfin, pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas. Mais pour lui, non. Donc, je lui dis, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait barrage ? Pourquoi pas ? Et il est marrant parce qu'il dit, je sais pas. Là, il faudrait créer la thérapie des musulmans, je crois, pour expliquer des choses qui sont inexplicables. Et ce qui était intéressant, c'est que ses enfants, sa fille, donc elle portait un nom et prénom que de consonance algérienne, et à l'école, ils avaient refusé de lui donner du porc. Et il a fallu que la mère se déplace pour dire « nous, on mange du porc ». Et le centre d'animation avait voulu lui faire signer une décharge, ce qu'elle a refusé. Donc ça a fait toute une histoire avec l'école. Donc on voit là les assignations.
Et à contrario, une famille qui avait prénommé si j'ose dire, je ne sais plus comment utiliser le vocabulaire approprié, qui ont plutôt un nom patronymique.
Oui. Assez mixte, le garçon s'appelait Adam.
Et là, ils sont musulmans, mais comme ça ne s'est pas vu au niveau du nom patronymique, il a fallu que la maman puisse aller dans l'établissement et leur dire que mon fils ne doit pas manger de porc.
Exactement. Donc on voit bien... les réductions, en fait, en gros. Prénom, nom de famille à consonance arabe, égal, ne mange pas de porc.
Et inversement. Et quand bien même on serait musulman.
Exactement.
Si on a un nom américain ou belge ou flamand, si j'ose dire, d'emblée, la question ne se pose pas. Passons, si vous voulez bien, chère Marie-Claire Willems, à la deuxième acception, puisque vous y arrivez dans votre conclusion à trois grandes catégories. Donc, on a passé en revue, on ne l'a pas épuisé, celle de la condition ethnico-religieuse ou culturelle. Le deuxième cas serait une sorte de condition et un statut à la fois politique et sociale, une condition sociale.
Exactement. Dans la première acception, on va être plutôt du côté de la construction d'une ethnicité musulmane en France.
Ce qui est un non-sens total.
Exactement, ce qui est un non-sens, mais les êtres humains créent des choses. Ils ont leur propre logique, on va dire.
Parce qu'on revient au bon sens quand on aura tout essayé, dit le vieil adage.
Mais on ne peut pas s'arrêter à ça aussi, parce qu'il y a aussi le côté politique qu'il faut considérer. la condition sociale. Et ça, c'est aussi une autre forme de catégorisation que je retrouve dans mon enquête, où on trouve des personnes qui vont dire, c'est très sartrien, qu'ils sont musulmans parce qu'ils sont assignés en tant que musulmans et qu'en plus, ils en subissent les discriminations liées à cette identité auxquelles ils sont assignés. Donc même si eux, c'est pas important pour eux, qu'ils sont athées, que ça fait pas partie de leur vie, ils peuvent pas ne pas se dire. C'est trop compliqué. Donc on est là, au-delà de l'histoire d'une culture, d'une assignation à une ethnie, ou à, on est vraiment dans le discours politique. Et donc, pour essayer d'approfondir cette question-là, j'ai beaucoup été dans les mouvements décoloniaux, qui ont pas mal, on va dire, théorisé à partir de là, où il y a une opposition qui se construit entre, en gros, la figure du blanc et la figure du musulman. Et donc, là encore, on est dans une forme de différenciation. Et encore une fois, on parle toujours pas de religion.
Et pour revenir sur ce point, et que faire des Slaves musulmans, les Bosniaques, on dit Bosniens maintenant, que faire des Bulgares musulmans à travers l'histoire? C'est-à-dire que l'opposition blanc-musulman, là aussi, n'a aucun sens. Et même à propos de la condition sociale, que faire de ce qu'on a l'habitude de dire, ceux qui sauvent le marché des Hurlings à Deauville ou le marché des Pouliches à Longchamp ou l'hôtellerie de luxe qui fonctionne bien parce qu'ils en sont à la fois consommateurs et propriétaires. Là, on les désigne par le vocable musulman ou par le vocable arabe ou par quel autre vocable? C'est peut-être l'objet d'un autre ouvrage.
Exactement. Hein, ce que j'aimerais faire, c'est aller voir si ces trois usages marchent, fonctionnent avec d'autres origines, dans d'autres territoires, pour essayer d'interroger quoi cette théorisation. Mais c'est vrai que, par exemple, cette opposition blanc-musulman. Alors, qu'est-ce que le blanc, qu'est-ce que le musulman dans l'histoire fonctionne pas, par exemple, dans le cas de, on pourrait dire, des blancs convertis à l'islam.
Oui, on va parler du cas de ce Alain, qui ne se retrouve nulle part dans tous ces clichés, stéréotypes, poncifs, lieux communs, collés au vocable musulman, parce qu'il l'est lui-même. Et mais il dit, mais moi je ne me retrouve absolument pas, enfin selon ce que vous rapportez, dans tout ce qui est accolé, en tout cas plaqué sur le terme musulman.
C'est vrai, et il y a aussi justement toute cette, c'est là où la question de la culture, toute cette cette manière de vouloir investir le religieux d'une manière qui ne serait pas arabisée. Je retrouve des personnes, par exemple, ou ce Alain qui dit « Moi, je rêve d'une mosquée sans mosaïque,
l'architecture contemporaine,
avec un prêche en français, où on se comprend tous, donc ou encore un repas que je fais avec des femmes converties à l'islam, qui explique que, par exemple, mon plat préféré, c'est le canard à l'orange halal. Enfin, on voit vraiment là toute cette différenciation qui se construit entre le fait d'être d'une religion et d'avoir une culture. Mais derrière, il y a tout le passif aussi du mot et toute l'histoire. C'est-à-dire, à un moment donné, Alain, il dit « Moi, je rêve d'une mosquée où on est tous français ». Il se reprend tout de suite. Il dit « Enfin, quand je dis français, c'est pas français de souche. En gros, je suis pas raciste. Hein. C'est pas l'idée. Je veux pas reproduire de l'entre-soi. Mais il cherche une religion où il est confortable avec ses codes culturels. »
Oui, et ce qui a été, puisque vous interrogez le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui dit...
Que je remercie d'ailleurs pour son temps.
Ça a toujours été le cas. Ici même, dans cette antenne, on dit qu'à Pékin, la mosquée de Pékin, on ne la distingue pas d'une pagode. Mmh. Et à contrario, la mosquée d'Ispahan est totalement différente de celle de Cordoue, etc. Donc, il y a cette question d'acculturation qui est importante. Et en principe, la sortie de crise doit passer par là.
Oui,
bien.
En principe.
Donc, in fine, peut-être ça serait aussi une de vos conclusions, comme la tradition religieuse islamique, comme une tradition religieuse, notamment monothéiste, dans la famille abrahamique judéo-islamo-chrétienne, c'est une tradition à vocation universelle. Elle n'a pas à être obérée par des considérations ethniques et sociales.
Oui. Toute la difficulté, c'est que quand même la catégorie musulmane et la figure du musulman en France est très chargée d'altérité, de danger, et c'est très compliqué. Je vous raconte une anecdote que je n'ai pas racontée dans le livre, ou je ne sais pas, je ne crois pas, où je lis un livre dans le bus qui s'appelle « Marie la musulmane ». Et là, je suis interpellée par une personne en face de moi qui me dit « Mais c'est quoi cette histoire, Marie la musulmane ?» Et là, il me répond « Elles aussi vont nous l'apprendre. » Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment on est ailleurs. En fait, c'est toute l'action, on est ailleurs que dans le débat religieux. On est dans de l'identitaire.
Et pourquoi, cette fois-ci, je vous pose directement la question, parce que pas dans l'ouvrage, c'est une spécificité française. Parce que cette question du musulman ou de la musulmane, et autour de l'islam, surtout, c'est chargé avec toute cette négativité, n'est qu'en France.
J'ai l'impression, mais j'ai pas la réponse. C'est une question que je me pose. J'ai les faits. On voit bien que c'est une spécificité française. Ça s'est sûrement construit historiquement, c'est sûr, mais je ne sais pas pourquoi.
Alors,
faudrait repartir.
Une des explications tient en deux faits dans l'histoire. C'est qu'il y aurait, j'utilise le conditionnel par précaution, moins d'islamologie savante qu'ailleurs.
Exactement.
Et donc ça n'a pas irrigué le reste de la société, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi le passif colonial. Parce que avec cette dichotomie européen-musulman, et quand bien même on n'aurait pas eu ça, on n'a pas affiché l'appartenance confessionnelle, on a catégorisé dans musulmans ceux qui n'étaient pas colons et n'étaient pas européens.
Alors après, la colonisation, c'est un moment où c'est un fait, mais il y a l'histoire avant. Qui fait qu'on en arrive au moment de la colonisation, est-ce que ça soit logique de catégoriser musulmans et non-musulmans, principalement pas musulmans, non-musulmans, musulmans européens, puisque justement derrière européen se cache le mot de non-musulmans qui n'est pas vraiment dit. Donc on voit bien toute l'ethnicité raciste, la racisation aussi pendant la période coloniale. Ça commence. Justement, c'est des questions que je me pose en prenant le critère de musulman, par exemple. Comment ça se fait que ce mot arrive si tard dans l'histoire? Alors, je vais lire des historiens, des historiennes. La théorie de Norman Daniel, elle est très intéressante, en disant que, en fait, c'était impossible de traduire musulman dans le sens de s'en remettre à Dieu, parce que c'était inentendable. Et c'est peut-être ça aussi qui a eu un impact sur la question de l'islamologie en France, je ne sais pas.
En dehors de l'anglicisme, Marie-Claire Williams, qu'est-ce que c'est que cette affaire de « Muslim is beautiful » ? On ne dit plus musulman, on dit muslim maintenant, un peu à la manière anglaise.
Lorsque j'ai fait des enquêtes, justement, c'était un critère d'interprétation où je demandais, bon, pour vous, c'est quoi être musulman ? Et une grande partie des enquêtés que j'assimile à la troisième usage, qui est l'usage exclusivement religieux, répondent, pour moi, être musulman, c'est être muslim. C'est-à-dire s'en remettre, se soumettre à Dieu, et puis ils font appel à des versets du Coran. Alors que, par exemple, si je vais enquêter auprès d'une personne qui va se dire musulmane athée, pour elle, musulmane, elle connaît pas du tout cette signification. Et donc, ça a été un point d'analyse que je prends dans le livre, justement, pourquoi islam n'a pas été traduit et passé directement en langue française, alors que musulman, il y a eu toutes les difficultés de traduction, puisque traduire muslim par sarrasin, c'est compliqué. On a les Turcs, enfin différentes. L'histoire donne différentes
sarrasin,
traductions.
C'est Sarakenoi, donc ça renvoie plutôt du côté des Grecs. Mais bon.
Et Norman Daniel justement explique que muslim dans sa signification était intraduisible parce qu'on n'en comprenait pas la signification, mais aussi parce que c'était difficile de penser que Adam était musulman alors que Adam était sarrasin si on traduit musulman par sarrasin. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette définition de musulman reprend place et peut-être que ça va être un mot qui va être de plus en plus connu et de plus en plus courant.
La sortie de crise serait par la désethnicisation.
Pour une partie de mes enquêtés. Si vous allez, par exemple, du côté de la condition politique et de l'opposition entre blancs musulmans, ça passe plus par un combat politique. Mais pour une grande partie de mes enquêtés, oui, ça passe par la désethnicisation, c'est-à-dire de saisir l'identité musulmane comme relevant d'une éthique, principalement, et non pas d'une appartenance ethnique ou biologique ou racisée, d'une éthique qui est toute discutable. Discuter sur l'éthique, à quel moment on est ou pas, la question de l'acculturation, de l'adaptation, mais c'est déjà avant tout parler d'une éthique.
Oui, dans un cadre d'une recherche d'élévation spirituelle ou dans un cadre religieux, si encore une fois on reste dans la famille abrahamique, on peut être juif, on peut être chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, évangélique, et on peut être aussi musulman parce qu'il y a cette éthique, il y a des valeurs morales. Il y a même quelqu'un qui essaye de spiritualiser ou d'éthiciser, si j'ose dire, les valeurs de l'islam en les mariant avec celles de la République, en disant que la sécurité sociale, ça va de pair avec la solidarité et l'entraide intrinsèque à la tradition religieuse islamique. La fraternité, bon, elle est omniprésente, selon lui en tout cas, dans la tradition religieuse islamique, etc.
La prière serait une forme de méditation, la circoncision, c'est hygiène. On voit apparaître une forme de sécularisation des valeurs.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous interrogeons le mot musulman avec la sociologue Marie-Claire Willems. Marie-Claire Willems est docteur en sociologie attachée au laboratoire Sophia Paul. Sophia Paul, c'est sociologie, philosophie, anthropologie politique de l'Université Paris-Nanterre. Et donc, musulman, une assignation. Point d'interrogation, c'est la question que pose Marie-Claire Willems, et elle tente d'y répondre avec brio. La sortie de crise, nous l'avons dit, est ou serait le fait de désethniciser le mot, le vocable, et de le laisser à une sorte d'éthique, à une sorte de spiritualité. Mais dans le tintamarre actuel et le vacarme tumultueux, ce n'est pas possible, ou c'est du moins c'est inaudible.
Vous voyez par exemple toutes les difficultés avec l'islamophobie, où j'ai fait pas mal de rencontres par exemple dans des ripostes laïques, où justement ils revendiquent le fait de, comme pour eux, être musulman, c'est uniquement une religion. Et qu'en France, on a le droit de critiquer les religions, donc je peux ouvertement être contre l'islam. En fait, c'est toute la question avec l'islamophobie, c'est de qui ou de quoi on parle aussi. Est-ce que c'est du racisme ou pas ? Est-ce que c'est une forme de racisme ? Et chez les ex-musulmans, par exemple athées, ils pouvaient me dire qu'ils avaient peur d'être considérés comme islamophobes en France. C'est intéressant de voir ce flou. Donc, ça serait la sortie de la crise, mais peut-être pas en France.
Et il y a aussi l'autre débat, islam-islamisme, vous remontez à la proto-histoire du mot, vous dites que quelqu'un comme Voltaire parlait d'islamisme, il a juste raison. Et d'ailleurs j'ai été frappé, si tant est qu'il me soit permis de parler comme ça, agréablement, que vous utilisez le terme prosélyte, pas comme celui qui fait du prosélytisme, mais c'est celui qui est gagné par une action de prosélytisme à une cause, et c'est ça le prosélyte. Le prosélyte est un substantif. Ce n'est pas en principe un adjectif. Et donc, le Voltaire parle d'islamisme tout au long du 19e siècle, quand on parlait d'islamisme avec Ernest Renan. C'est un peu le pendant ou l'homologue de christianisme ou de judaïsme. Et là, pour beaucoup, c'est l'idéologisation et la politisation de la religion islamique.
Exactement. La question, c'est pourquoi l'islam est la seule religion qui a cette destinée.
Alors, c'est d'abord l'islamisme radical, le titre d'un ouvrage de Bruno Etienne, et le fait de considérer que certains parmi les militants, voire les extrémistes terroristes, disent ben, « nous ne sommes plus musulmans ou au-delà de musulmans, nous sommes islamistes, y compris dans la langue arabe ». C'est, ils utilisent aussi ce terme. C'est possible. Mais en tout cas, le glissement entre islam et islamisme se fait, la confusion continue à se faire, et on ne sait pas à quoi renvoie ni l'un ni l'autre.
Exactement.
Donc, ce qui ajoute à la confusion.
Ce qui ajoute à la confusion de la manière dont on doit se nommer, et aussi à tout le poids et toute la charge historique du mot musulman. Parce qu'il y a une forme d'impossibilité de se nommer islamiste, d'adhérer à l'islamisme, alors que ça a été possible pendant des siècles. Aujourd'hui, personne ne va se présenter « je suis un islamiste ».
Ah non,
non, ça n'existe pas.
C'est même
en France. En français,
en
tout cas.
Même, on tomberait quasiment sous le coup de la loi.
Ah bah oui. Et donc, je finis le livre avec un discours, justement, avec un échange avec Alain, qui dit « bah alors, bon, bah, musulman, s'il est autant chargé d'altérité historique, si c'est... » Parce que la question, en fait, c'est ça où là, moi, j'ai été un peu, parfois... troublé dans mon enquête, c'est qu'on pourrait dire la sortie de la crise, c'est de désethniciser. Mais ça veut dire qu'on enlève ce vocable à des gens pour qui mettent une autre signification derrière ce terme, mais pour qui c'est très important de le garder. Donc en fait, on est dans une espèce de... Comment on fait ? Comment on peut faire, par exemple, quand je parle de Tarek, je lui dis, mais si vous êtes athée, pourquoi vous continuez de vous dire musulman ? Et lui dit, il m'a dit, Marie-Claire, vous pouvez pas m'enlever ça. C'est mon identité, c'est ma mère, c'est mon histoire. Et là, on se dit, mais comment fait-on, en fait ? Et c'est la fin avec Alain. Il dit, mais comment on va s'appeler, en fait, si c'est très, si compliqué que ça ?
J'ai pas de réponse non plus, et ce n'est pas mon rôle. Simplement revenir à l'origine, certes l'étymologie et la préhistoire ou la proto-histoire des mots n'est pas simplement la réponse indiquée, mais à la fois dans la référence première dans le Coran et le début, le moment mohammedien comme on dit, le phénomène coranique, la longue et lente construction humaine qui est le fait islamique qui viendra plus tard, aussi curieux que ça puisse l'être, les tout premiers adeptes ayant suivi la prédication mohammedienne ne s'appelaient pas musulmans,
exactement,
mais
oui,
plutôt croyants.
Ouais, les mohammedoun, ouais.
C'était d'abord les croyants et après, curieusement, le mot croyant va aller englober ce que nous appellerions maintenant les juifs et les chrétiens. Mm-hmm. Puis les musulmans, et puis ceux qui sont les mahométans, si je puis dire, deviendront, au sens technique, les musulmans. Si je reviens au triptyque, d'abord, musulmans, c'est une sorte de catégorie ethnico ou ethno-culturelle. Deuxième point, deuxième volet, c'est une condition sociale. Étonnamment, enfin prolétarisé, ghettoisé, les fameux indigènes de la République notamment, alors qu'ils sont parfois loin de ce qui est islamique. Et troisième cas, une éthique, une spiritualité. Mais prenons quelqu'un qui vient de Malaisie, qui dit « je suis musulman », et il serait perçu comme le musulman au même titre qu'un maghrébin, fût-il non musulman, selon votre enquête.
Je pense, oui.
Il y a quand même une réelle difficulté.
Alors peut-être qu'il y a c'est plus complexe avec les Noirs, par exemple, où justement le stigmate noir prend tellement de place en France que ça efface un petit peu le stigmate de musulman. Et lorsque j'étudie les glissements de termes pendant la colonisation et après, on voit par exemple dans la politique du logement, alors je cite une collègue, on voit que il va y avoir une différenciation entre la catégorisation de musulmans et ce qui va s'adresser à la catégorisation noire. Et justement, on prend les recherches comme celle de Mohamed Timera, où on voit bien que le stigmate noir efface celui de musulman.
Et quelqu'un qui viendrait du Tatarstan, les fameux Russes musulmans, je ne parle pas de ce cas précis maintenant, dans le cadre d'une guerre inacceptable, il n'a rien à voir avec l'ethnie nord-africaine.
Peut-être qu'une sortie, et d'ailleurs c'est, les enquêtés le rappellent souvent, et je le cite, où ils disent bien, les musulmans on peut être de toute nationalité, de toute origine. C'est aussi une sortie de cette assignation, de rappeler la diversité.
Oui, mais il faut sans cesse le faire savoir.
Oui.
Bien, alors nous arrivons au terme de notre émission. Merci infiniment.
Merci à vous.
Chère Marie-Claire Willems. De nous avoir, en tout cas, moins entretenu sur la difficulté d'ordre sémantique et au-delà, avec toutes ces implications autour du mot musulman. Est-ce une assignation? C'est votre question. L'identité, cette fable philosophique, comment aider Ali Ben Makhlouf, continue encore à occasionner beaucoup d'incompréhension et c'est peut-être même un doux euphémisme. Mais en tout cas, merci.
Merci
à vous.
Merci beaucoup.
Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Et vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture, quand vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application de Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Étienne Collin. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.